la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Un spécialiste a identifié quatre choses à faire pour espérer à Caen atteindre les 80 ans. L'info m'a fasciné quand j'ai préparé l'émission. J'avais envie de vous transmettre quelque chose qui, vous et moi, va nous mettre de bonne humeur avant de passer la prochaine demi-heure à faire un constat beaucoup moins feel good. Le magazine d'information britannique New Scientist s'est intéressé pour sa une de cette semaine aux ingrédients, je cite, pour atteindre 100 ans et être content d'y arriver. J'adore. Alors, je n'ai pas lu le magazine entier, mais l'article que le Courrier International en a fait, et il est plutôt intéressant. J'ai pu y relire qu'une des recettes miracles est et reste le régime méditerranéen à base de poissons, de légumes et de céréales. Il y est aussi question de génétique. Je suppose qu'avec un bon brassage génétique, c'est mieux. Pour le dire autrement, plus nos ancêtres ne se ressemblent pas, plus il y a une diversité génétique et un renouvellement des cellules, etc. Bref, je recrache mes cours de SVT qui datent. Il y a aussi ce que le spécialiste dont je vous parlais a identifié. Je vous cite l'article. La plupart de ces gènes confèrent une protection contre les maladies du vieillissement, notamment cardiovasculaire, explique Nir Barzilai, qui étudie les champions du vieillissement à l'Albert Einstein College of Medicine à New York. Mais ce n'est pas tout. Le spécialiste identifie quatre piliers pour dépasser 80 ans. Je cite, deux points. Optimisez votre activité physique, force et souplesse, votre sommeil, visez 8 heures, votre régime alimentaire méditerranéen avec un peu de jeûne intermittent et vos liens sociaux. Fin de citation. D'abord, j'aime l'idée de me dire que quelqu'un étudie les champions du vieillissement. C'est tellement pas banal que ça vaut le coup de le souligner. Ensuite, et finalement, je ne sais pas pour vous, mais j'avais conscience de ça quelque part. Un peu de sport, de dodo, de miam et de relations sociales. Je vous avoue qu'en fait, j'ai cet équilibre-là. Et tant mieux, ça m'arrange au fond. Et si vous ne l'avez pas, je vous le souhaite. Parfois, il nous suffit juste de faire les choses simplement pour apprécier la vie dans sa plus simple forme. Au programme de votre matinale de 19h ce soir, non pas un, mais deux Hugo. Le premier vous propose une chronique humoristique, l'autre est avec son invité Raphaël Barban pour nous parler du festival Formula Bula. Fabien nous parle d'actualité et avec Hélène, nous sommes avec Vincent Blasquez-Pachon du Secours Populaire Français pour parler de la campagne Pauvreté-Précarité et des résultats du baromètre 2025. Votre matinale de 19h sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en DAB+, c'est maintenant, c'est tout de suite.
La matinale de 19h.
15 ans après une première enquête, le constat est alarmant. Les conditions de vie des jeunes se sont nettement dégradées. Nous sommes avec le Secours Populaire Français pour en parler et notamment Vincent Blasquez-Pachon, secrétaire général de la Fédération Seine-Saint-Denis du Secours Populaire Français. Et je suis avec Hélène pour l'interview. Salut Hélène.
Salut. Bonjour Vincent Blasquez-Pachon.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire fédéral du Secours Populaire de Seine-Saint-Denis. Et j'aimerais commencer par vous poser un petit quiz. 116,7 milliards d'euros, c'est un chiffre qui vous dit quelque chose ? 116,7 milliards d'euros, ça vous dit quelque chose ? C'est la fortune de la famille de Bernard Arnault.
Je ne suis pas un familier, c'est vrai, de cette famille.
Propriétaire du groupe LVMH. Et un autre chiffre peut-être un peu plus petit, 1426 euros, ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, ça c'est le minimum de salaire qu'on touche en France.
Absolument, c'est le SMIC à temps plein. On voit la disproportion des richesses en France. Entre 2019 et 2023, les revenus des patrons du CAC 40 ont augmenté de 37%. Et entre 2020 et 2023, je dis 2023 parce que c'est les derniers chiffres de l'INSEE, entre 2020 et 2023, les salaires ont baissé de 3% à cause de l'inflation. Résultat, aujourd'hui, 7% des Français ont sauté un repas en 2025. C'est en tout cas ce que dit votre baromètre, le baromètre que vous venez de publier, le baromètre du Secours Populaire dont nous allons parler avec vous. Alors peut-être vous pouvez nous dire en un mot, ce que c'est que ce baromètre ?
Oui, enfin, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça régulièrement. Alors, c'est vrai qu'on fait une comparaison maintenant par rapport à 15 dernières années. Il est clair que Quand on voit par exemple la situation des jeunes, aujourd'hui ils sont plus de 50% à considérer qu'ils n'ont pas un niveau de vie suffisant, alors qu'à l'époque ils étaient à 30% seulement. Donc il y a un gap qui est passé. On le voit également dans l'accueil des familles que nous avons, où très clairement, malheureusement, d'année en année, ça s'accroît. Alors ce baromètre est un témoin. On fait des comparaisons européennes, on fait des comparaisons nationales et par tranche d'âge, ce qui nous permet d'avoir un peu l'évolution. Mais ça ne fait malheureusement que conforter ce qu'on voit régulièrement sur le terrain, dans nos antennes étudiantes et dans les différents comités du département.
C'est le 19e baromètre. Il est né il y a 15 ans. Le premier, dans quel contexte ?
Je pense qu'on souhaitait avoir un indicateur qui permette de suivre année après année l'évolution. On est, si vous voulez, traditionnellement, en secours populaire, en tout cas, on souhaite être un aiguillon des pouvoirs publics. Donc c'est un moyen d'attirer l'attention et de toujours réclamer plus de solidarité. On s'est battu sur les fonds européens, on sait qu'ils baissent régulièrement. Si on n'a pas le moins d'indicateurs qui soient indépendants, on n'est pas en mesure, on n'est pas crédible dans nos demandes. Donc il nous faut des statistiques indépendantes pour travailler.
Alors justement, statistiques, avant de rentrer peut-être dans le détail, dans le très concret de la vie quotidienne des gens que vous avez interrogés, 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce seuil ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement ?
Ben écoutez, moi j'ai une expérience de terrain, ça permet de voir un peu comment ça se traduit. Très clairement, on a un bon tiers de femmes isolées, de parents, des familles monoparentales, une population extrêmement jeune. C'est vrai que la Seine-Saint-Denis est un département, et le département le plus jeune de France, en tout cas métropolitaine. Et on voit cette croissance, être permanente. Sur les comités locaux du département, on a eu des accroissements de près de 40% de demandes d'accueil. Et avec ça signifie quand même, on a des critères aussi de revenus, plus de 60% dans certains comités de famille ont 5 euros par jour par individu dans la famille.
Alors ça justement, ça m'intéressait comme chiffre, on est dans le très concret. Quand vous dites 5 euros par jour, pour qu'on comprenne, ça veut dire quoi ?
C'est du reste à vivre.
Pour une famille de combien de personnes d'ailleurs ?
C'est par personne ça. Donc qu'elle soit de une ou de cinq, c'est le reste à vivre par personne. Sinon, ça n'a pas de sens.
Donc une fois payé le loyer, l'électricité, les dépenses contraintes. Donc
c'est vraiment
les personnes
le reste à vivre.
Avec 5 euros doivent se nourrir, s'habiller.
C'est ça.
D'accord. Et donc vous, concrètement, vous êtes confronté au quotidien avec ces personnes qui ont 5 euros ou moins de 5 euros.
C'est très clair. C'est près de 60% des populations que l'on accueille. C'est assez colossal. 5%. Alors, on parle d'habillement, on parle de nourriture, mais alors, ne parlons pas de sortie, parlons pas de vacances. On va essayer, nous, d'aller au-delà, je dirais, du simple alimentaire, parce qu'il faut, en effet, apporter d'autres réponses, je pense.
Une précarité toujours plus ancrée en France par rapport à 15 ans. Pourquoi ?
Pourquoi ? Honnêtement, nous, on ne traite pas les causes, on essaie de compenser un petit peu les conséquences. On ne va pas aller sur le terrain d'expliquer les causes, c'est vraiment pas, il y a des politiques pour ça, et ça c'est pas notre discours. Nous on essaie en tout cas d'attirer les pouvoirs publics pour qu'ils essaient de maintenir en tout cas les soutiens à nos organisations, et nous on essaie d'apporter du secours, qu'il soit alimentaire, qu'il soit vestimentaire, qu'il soit également permettre des sorties culturelles, permettre aux jeunes d'avoir des livres. Ça paraît
en parlant de
banal,
jeunes, vous avez fait le choix de vous focaliser sur les moins de 35 ans cette année. Pourquoi ?
Cette année, plus particulièrement, oui, parce qu'il y a en effet une vraie alerte. À notre antenne de Paris 8, on a en moyenne de 200-300 étudiants par
Donc
plein,
l'université de Saint-Denis ?
C'est Saint-Denis, oui, c'est Saint-Denis. On n'est pas partout, mais là, on y est. Alors, c'est une université un peu particulière, parce qu'elle a des tranches d'âge assez variables. Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans des situations très, très confortables. Il n'y a pas que l'alimentaire. Il y a le logement, il y a bien sûr le vestimentaire. C'est assez complexe. Mais on voit bien le gap entre le dernier, les 15 ans et maintenant, 30%, plus de 50%. Il y a une vraie dégradation. Et malheureusement, on parle plus aussi maintenant, et c'est un vrai souci. On a des permanences santé, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi un vrai problème de santé mentale dans les jeunes, parce qu'ils n'ont plus confiance en l'avenir, et ça les détruit petit à petit.
Oui, une pauvreté qui se transmet, hein, puisque selon les chiffres de l'OCDE, il faut 6 générations en France pour sortir de la pauvreté, alors qu'il en faut seulement 2 au Danemark. Donc on voit bien qu'il y a quand même une espèce d'enfermement dans une pauvreté qui se transmet. Vous dites des jeunes qui sont inquiets. En même temps, votre baromètre dit que 56% éprouvent quand même un sentiment positif pour l'avenir.
Bah heureusement qu'il en reste encore chez les jeunes quand même. Heureusement.
Non mais c'est vrai que ça semble paradoxal si d'un côté la situation s'est détériorée et si de l'autre il reste quand même de l'espoir.
Ah bah moi j'ai comme chiffre que 50% se sentent pas bien quand même, hein. Donc c'est quand même beaucoup ça.
Bien sûr.
Pour des jeunes, alors normalement à cet âge-là on a l'avenir devant soi et on n'a pas des pensées plus sombres. Donc je pense qu'ils ont bien conscience que ça va pas être facile pour eux et je pense que c'est aussi l'inquiétude de leurs parents qui n'arrivent pas à satisfaire non plus les possibilités aux jeunes. Donc
oui,
forcément.
D'autant plus que ce que montre votre baromètre, c'est qu'un tiers des Français estiment que les revenus du travail ne leur permettent pas de faire face à l'ensemble des dépenses. Et donc, ça n'est pas une perte d'emploi, ça n'est pas une séparation, ça n'est pas une maladie. C'est vraiment un manque, enfin un niveau trop bas des revenus du travail. Et c'est ce que vous constatez au quotidien ?
Bah écoutez, on n'a pas que des gens en errance, sans papier, en foyer. On en a beaucoup, certes. Mais on a des jeunes, des jeunes retraités, ça existe aussi, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Donc il y a une paupérisation complète de la population qui s'aggrave. Et ça, c'est malheureusement, je pense que c'est un constat. Et on le voit bien dans la typologie de nos familles. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure des parents isolés, etc. C'est vrai que c'est un gros problème.
De vos familles en Seine-Saint-Denis.
Pardon ?
En Seine-Saint-Denis, notamment.
Oui, oui. On a une population très jeune, ce qui fait qu'on a des familles avec beaucoup d'enfants. On a aussi beaucoup de femmes qui vivent dans des foyers, dans des conditions assez limites. C'est une particularité du département, oui.
Mais donc, vous voulez dire que parmi le public qui vient vous voir, il y a des salariés ?
Il y a des salariés. Il y a eu des salariés qui sont souvent à temps partiel ou qui font 3-4 boulots. On a récemment, dans un des comités que je connais bien, une personne que nous avons accueillie dans un moment difficile pour elle, pendant 3-4 mois. Aujourd'hui, elle est devenue bénévole. Elle s'est redressée financièrement, mais a fait 3 boulots pour y arriver. Donc ça signifie que c'est quand même pas une situation d'une grande stabilité.
Vous parlez justement d'une personne que vous avez aidée et qui est bénévole. Je crois que c'est une particularité du Secours Populaire d'être aussi une association qui est vraiment faite avec les gens et pas pour les gens, mais dans laquelle les personnes sont à la fois aidées et actives dans l'association.
On a une pratique qui nous différencie d'autres associations. On ne fait pas de la charité, on ne fait pas dans le caritatif, on est solidaire et on demande à toute personne aidée d'apporter une contribution aussi modeste soit-il, de participation solidaire. C'est-à-dire qu'on lui donne un panier, elle nous verse un euro solidaire. Vous voyez, pour montrer qu'on est dans l'échange, on est dans la solidarité réciproque. Et donc évidemment, il y a des personnes accueillies qui deviennent des bénévoles et ça devient presque un peu naturel puisque c'est un peu notre façon de faire et on essaie. C'est un accueil, c'est un accueil humain qu'on fait. C'est pas, on n'est pas sur autre chose. On n'est pas sur aider sans retour. C'est pas du tout notre façon de faire.
Et d'ailleurs, je me demandais, votre financement vient d'où ? On sait que les Français sont des donateurs. Hein. En 2024, un Français sur deux a fait un don, ce qui n'est pas rien, même s'il y a une baisse des petits dons par manque de moyens. Le Secours Populaire fonctionne comment ?
On constate pas tant que ça une baisse des dons. C'est assez surprenant. On a eu bien sûr une flambée au moment du Covid. Mais en fin de compte, on pensait que ça allait se réduire et ça ne se réduit pas tant que ça. Notre financement, on est assez jaloux de notre indépendance et on essaie de garder ce ratio, un bon tiers de dons, un bon tiers d'initiatives et un tiers de financement public.
Quand vous dites initiative, c'est-à-dire ?
Initiative, c'est-à-dire qu'on fait des braderies, on fait des actions en vendant des petites choses. Un tiers de ce financement vient de là quand même.
Et quand vous dites un tiers de flux de subventions publiques, ça veut dire que dans le fond, l'État accepte d'admettre qu'il ne répond pas
aux besoins
des gens.
Le département, les communes, oui, mais on sait bien qu'ils sont en restriction.
Nous sommes avec Vincent Blasquez-Pachon dans la matinale de 19h. Nous revenons après SLS interprété par Hadès de Planète.
C'est la monnaie. Je lève même pas les taches rouges sur mon collard. Trop forte, elle a mis le tight jeans, elle me connaît. Et je dors quand je dis I love you, sans déconner. Dans son film, je suis le coup. T'as le big dream, c'est la monnaie. J'ai un tas de big shoes pour ma honey. Je lève pas les taches rouges sur mon collard. J'ai platiré ta joue sur le sol. Elle a mis le tight jeans, elle me connaît. Tu peux me siffler la tight jeans sans.
Hadès de Planète sur le 93.9 FM et sur le DAB+, c'était SLS, 19h17, bientôt 18h, vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Toujours avec Vincent Blasquez, Pachon du Secours Populaire Français au sujet du baromètre 2025 sur la précarité et sur la pauvreté, et notamment sur les actions du Secours Populaire Français. Vincent, en fait... La question, elle est toute bête, mais je crois que c'est important de la poser pour bien comprendre. C'est quoi le Secours Populaire Français ? Qu'est-ce que ça fait au quotidien pour nous ?
Nous sommes une association de solidarité généraliste, avec comme règle principale un accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'on accueille pratiquement tous les gens qui viennent, qui ont besoin d'être aidés. Alors, généraliste, ça veut dire que on nous connaît beaucoup sur l'alimentaire, mais honnêtement, on travaille sur les vacances, on travaille sur les loisirs, on essaie de faire des ateliers en collaboration avec des salons du livre, enfin de faire cette opération donner-les à livre, on fait ça tous les ans. C'est important parce que au-delà, je dirais, des besoins primaires, il faut vraiment que les jeunes parmi nos populations aient cet apport de, je dirais, à la fois de culture et de sortie qu'ils n'ont pas. On a encore, cette année par exemple, c'est une année un peu exceptionnelle parce qu'on a fait notre journée des oubliés des vacances à Paris, dans le cadre des 80 ans. Il y a des enfants qui n'avaient jamais vu la Tour Eiffel, alors qu'ils vivent à 15 kilomètres. Vous voyez, c'est tous les ans, on emmène des enfants à la plage dans le cadre de ces journées-là. Ils n'ont jamais vu la mer. Et beaucoup nous disent, j'ai pas de livre à la maison. Donc on leur fournit ça. On essaie. En tout cas, c'est un axe de développement qu'on veut vraiment accentuer dans les années qui viennent. Multiplier les offres loisirs, culture, sorties. Et puis bien sûr, il y a tout le reste. Le solidaire classique comme l'alimentaire et le vestimentaire.
Alors vous l'avez dit, hein, vous fêtez vos 80 ans cette année, même si la structure elle-même sous un autre nom date de 1923, mais c'est votre 80e anniversaire. Est-ce que le type d'action menée par le Secours Populaire a beaucoup changé en 80 ans, ou dans le fond vous restez dans la même lignée, c'est-à-dire à la fois une aide matérielle, culturelle, etc.
Oh, je pense que il évolue, mais notre fondamental est toujours là. Et je pense que dès le départ, on est libellé éducation populaire, ça signifie quelque chose. Vous voyez, on n'est pas une association de distribution alimentaire. C'est très clairement. Et ça, on y tient. On souhaite rester un aiguillon des pouvoirs publics pour que les choses progressent. C'est quand même un petit peu anormal qu'au bout de 80 ans d'existence, on soit encore à être aussi nombreux à apporter de la solidarité. Il y a un vrai souci.
Et vous dites alerter les pouvoirs publics, c'est ce que fait par exemple aussi la Fondation Emmaüs sur le mal-logement par exemple. Est-ce que vous avez beaucoup de liens avec les autres grandes associations nationales de lutte contre la pauvreté ?
On se croise, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, donc... Maintenant, bon, dans certains locaux, il y a des locaux qui sont partagés avec eux, mais c'est pas, on n'a pas de partenariat particulier, si vous voulez. On essaie de les développer avec plein de structures, mais pas forcément avec d'autres associations.
Ce mois-ci, en septembre, là, vous allez mener votre campagne pour pouvoir alerter sur la précarité et sur la pauvreté. Ça se traduit concrètement comment en septembre ?
Alors, on a cinq grandes campagnes nationales. Celle-là est la dernière de l'année. C'est resensibiliser. C'est vrai que c'est la période de l'année où on reçoit le plus de dons. Donc, c'est dire aux gens, on en a toujours besoin. Donc, voici les chiffres. Ça ne baisse pas, au contraire. Et donc, il ne faut pas faiblir. C'est-à-dire que la générosité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas vraiment baissé, à notre grande surprise d'ailleurs. On sait malheureusement que les subventions, elles, vont avoir tendance à baisser. On sait déjà que pour l'année prochaine, certaines ont baissé de 25%.
Sachant que c'est un énorme. Tiers de vos finances.
Oui, un tiers. Donc, mais il faudra compenser si on les a pas. Ça. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est vrai que nos cinq campagnes, elles sont axées sur nos différentes activités. La dernière campagne menée, c'est celle-ci. La première, c'est notre Donne Action qui sert aux structures directement. Donc c'est fléché structure. On a ensuite une chasse aux œufs qui est fléchée solidarité internationale. On a aussi cette particularité. On ne s'occupe pas uniquement que du territoire métropolitain, mais également ultramarin et international. On a plus d'une centaine de partenaires à l'extérieur. On fait des campagnes d'urgence. Oui, il y a une catastrophe quelque part. On se lève pour le petit matin pour faire une collecte. C'est vraiment, on est souvent sur la première scène. Et puis, la fin, au printemps, on a la campagne des oubliés des vacances. Donc, vous voyez, tout au long de l'année, on a ces cinq campagnes qui rythment notre collecte. Et on est des bénévoles, mais on s'appelle collecteur, animateur, bénévole. C'est le terme exact d'un bénévole du Secours Populaire.
Voyez. Bénévole, d'ailleurs, vous êtes combien au Secours Populaire ?
On est 98 000, presque 100 000. C'est une belle, une belle équipe. Et 98 fédérations, vous voyez, il y a un maillage territorial important.
Je crois que vous-même, vous êtes implanté à Montfermeil. Est-ce que vous pourriez nous décrire le genre d'actions qui sont menées très localement ? Nous donner un exemple ?
À Montfermeil, et c'est un jeune comité, je ne sais pas forcément l'exemple le plus...
Alors dans la ville d'à côté.
Oui, non. Il y a des comités plus anciens. C'est vrai que c'est un jeune comité qui est né au Covid, avec le Covid, très simplement. Bon, il y avait des gens qui ne sortaient plus chez eux, qui n'avaient pas à s'alimenter, qui ne travaillaient plus. Enfin, il fallait faire quelque chose. Il y a eu un petit élan de solidarité avec beaucoup de professeurs de collège qui étaient disponibles, puisque du coup, il y avait plus cours. Et eux, ils se sentaient solidaires, donc on a commencé comme ça. Et voilà, donc ça a été essentiellement de l'alimentaire et avec en prenant un peu d'expérience, on a commencé à faire des braderies et faire du vestimentaire. On a commencé à envoyer nos enfants, une quarantaine ou une cinquantaine d'enfants à la mer. Bon, c'est petit à petit que ça se construit parce qu'il faut bien sûr avoir à la fois les bénévoles, avoir à la fois les ressources. Voilà.
Vous avez trois types d'actions. Vous avez des actions de protection, des actions d'accompagnement et des actions d'émancipation. Comment faites-vous pour que les personnes aidées soient s'émancipent ?
Pour qu'une personne aidée s'émancipe, c'est déjà qu'elle ne reçoive pas ce qu'on lui donne comme une charité. C'est déjà le premier pas. C'est-à-dire qu'elle participe par son propre apport, déjà, c'est essayer de faire grandir nos personnes. Oui, c'est un peu l'esprit. Alors c'est vrai que c'est peut-être facile de le dire en parole, mais en pratique c'est un petit peu plus compliqué. On est quelquefois perçu comme une administration qui va aider. Non, c'est pas ça. On a un vrai travail de pédagogie à faire et on le fait régulièrement. Cette participation solidaire, elle ne va pas de soi. Les gens ne comprennent pas forcément. On ne leur vend pas le panier. Il ne s'agit pas de cela, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a aucun rapport entre le geste qu'on leur demande et ce qu'on leur apporte. Mais pour qu'elles se sentent qu'elles se prennent en charge. Vous voyez, par exemple, on envoie des familles en vacances. C'est des familles qui partent, on leur dit 8 jours de vacances, ils ont le séjour complètement pris en charge, le déplacement pris en charge. Ça coûte 3-4 000 euros pour une famille, en gros, c'est le coût. On va leur demander une participation de 100 euros. Le comité local va apporter aussi sa contribution. Mais on essaie de... et on va aller les accompagner éventuellement, parce qu'on est, je me souviens d'une famille qui n'avait jamais pris le train, donc elle paniquait un peu. Vous voyez, mais ça paraît simple comme ça, mais quand les gens n'ont plus les moyens ou non, ils n'ont même pas ce type d'expérience qui paraît banal pour tout le monde. À nous d'apporter notre aide et en tout cas de faire en sorte qu'ils se sentent un peu plus grands après.
Et du côté des étudiants, vous nous avez dit que vous distribuiez la nourriture, si j'ai bien compris.
Oui, des colis alimentaires, il y a aussi du vestiaire. On a distribué des équipements informatiques également, pour ceux qui ne pouvaient pas avoir un minimum d'équipement, dans la mesure de nos possibilités. Mais en tout cas, ça fonctionne assez bien. On a une belle antenne étudiante à la fac Paris 8. On manque de bénévoles, ça c'est un sujet, parce que les amis qui sont là sont plus très jeunes. Et puis les étudiants ne peuvent pas être suffisamment... parce qu'ils tournent, il y a une rotation dans les étudiants, donc on n'a pas un bénévolat fixe là.
Et vous avez senti vraiment un besoin à la fac de tout ce que vous apportiez, c'est-à-dire qu'il y avait... vous auriez pu en faire plus.
Je vais même compléter en termes de santé mentale aussi. Est-ce qu'il y avait un besoin, notamment en termes de santé mentale?
Alors nous, évidemment, on n'apporte pas de soins. On a des permanences santé dans nos comités. On a une référente santé fédérale. On propose des bilans santé. On propose même des possibilités d'optique gratuite. Vous voyez, avec des consultations avec une fondation partenaire, qui est la Fondation Rothschild. Moi, je ne fais pas de publicité, mais ils sont partenaires là-dessus. Et on a également des appareils auditifs. Alors c'est vrai qu'il y a le 100% santé, mais tout le monde n'a pas la mutuelle qui va bien pour ça. Donc il faut aller un petit peu au-delà. Et puis les bilans santé, tous n'ont pas forcément la démarche. Alors c'est pas, évidemment on n'a pas le médecin, c'est pas notre travail. On a des partenaires pour ça, on a des structures qui le font très bien. On est bien sûr en relation avec la CEPAM, mais à nous de les inciter à s'inscrire et à faire ces démarches-là. Et c'est pas forcément naturel non plus. Et
très concrètement, si un étudiant de Paris 8 nous écoute, vous avez quoi, une permanence, un local, où est-ce qu'il peut aller?
Il y a un accueil régulier à la fac et il y a une distribution, là ils peuvent se manifester. Je pense qu'ils sont assez connus maintenant. On est bien visible quand même quand on fait une distribution à la fac, on nous voit très bien.
Quand on est étudiant ou juste n'importe qui, comment on vous aide? Comment on vous aide?
Comment on peut vous aider?
Comment soutenir le Secours Populaire?
Écoutez, il y a différentes façons. Vous pouvez rejoindre des comités, participer à des collectes, venir sur des opérations ponctuelles ou régulières de distribution, participer également à des sorties. On manque souvent d'accompagnants. Vous voyez, ça aussi, il y a toujours un référent ou des accompagnants. Il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des jeunes qu'on doit accompagner.
Donc voilà, il n'y a pas que le financier. C'est aussi de la main d'œuvre. On a besoin de personnes pour pouvoir faire vivre aussi.
Écoutez, nos contributions volontaires en nature pèsent à peu près 5 fois ce que les finances représentent. Donc vous voyez un peu le poids. Les contributions volontaires en nature, c'est le bénévolat, c'est les dons matériels que l'on reçoit et les prestations par le prêt de locaux que nous ne payons pas. 5 fois nos ressources financières, c'est très très important.
Merci en tout cas, merci d'avoir passé la demi-heure avec nous au sujet donc de ce baromètre qui permet de dresser ce constat relativement alarmant, mais avec des points d'optimisme comme vous nous l'avez dit, cette confiance en l'avenir. Merci Vincent Blasquez-Pachon, secrétaire général de la Fédération Seine-Saint-Denis du Secours Populaire Français. Dans la prochaine demi-heure, Hugo nous donne son humeur du jour. L'autre Hugo nous parle du festival Formula Bula. Fabien, enfin, nous parle d'actu. Mais d'abord, votre pause musicale avec Opinard.
Salut, Yohan. Je suis en bas, là. Je viens d'arriver à Nice. Je suis devant le Mama Shelter.
Pénélope, voulez-vous me suivre? Vous êtes la seule à atténuer ma tristesse. J'ai beaucoup de champagne, on peut se mettre sous ivresse. Et c'est d'aller nos vies. Je suis au septième étage dans ma suite. Toqué à la porte 737. Parfumer la pièce de votre aura sans stress. Ce rouge à lèvres épouse si bien 700 S. Au bout de vos lèvres, Pénélope, j'ai fait du trajet. Je suis revenu le cœur outragé. Vous êtes la seule à me soulager. J'apprécie votre compagnie et chaque détail de votre silhouette. Vos accessoires, votre paire de lunettes. Je suis très sensible au parfum Dior et vous m'avez eu. Pénélope, ex-Miss Aquitaine. Un peu plus âgée comme j'aime. Pénélope, la reine des soirées mondaines. La reine des soirées mondaines. Pénélope, voulez-vous me suivre? De votre chaleur, je voudrais être ivre. Pénélope, voulez-vous me suivre? Pénélope, je vous en prie, installez-vous. Moi et tes chandons. De belles chansons. Quelle soirée canon. Au mieux, je vous laisse me guider. Femme de goût, je sais que vous avez des idées. Pénélope, à vous de décider. Vous ne me laissez jamais indifférent. Pénélope, Pénélope. Vos yeux noirs intimidants. Développe, Pénélope. Une flopée de sentiments. Pour vous, Pénélope. Jamais indifférent. Pénélope, Pénélope. Ex-Miss Aquitaine, Aquitaine. Un peu plus âgée comme j'aime. Pénélope, la reine des soirées mondaines. La reine des soirées mondaines. Pénélope, voulez-vous me suivre? De votre chaleur, je voudrais être ivre. Pénélope, voulez-vous me suivre? Pénélope, voulez-vous me suivre?
Au Pinard sur Radio Campus Paris 93.9 FM et sur le DAB+, le tout dans la matinale de 19h.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
La première chronique de la matinale, c'est celle de Fabien. Ça va Fabien ?
Eh oui, ça va très bien, et toi ?
Ça va. De quoi tu nous parles ?
Eh bien moi, je vais vous parler des Ig Nobel. C'était la 25e édition cette semaine. Et donc les Ig Nobel ont célébré à Boston les recherches scientifiques les plus insolites. Pour ceux qui ne savent pas, les Ig Nobel, c'est exactement l'inverse des prix Nobel. Ils récompensent ce qui ne sert à rien. De la croissance d'un ongle à la pizza préférée des lézards, ces travaux font d'abord sourire avant de surprendre. Chaque année, les Ig Nobel récompensent des recherches qui sortent de l'ordinaire, à la croisée des chemins, de l'absurde et de l'ingéniosité. Cette année, il y avait 10 catégories qui ont été récompensées. William Bean a ainsi reçu à Boston un hommage posthume en littérature pour avoir suivi la croissance de son ongle pendant 35 ans, révélant un ralentissement de la pousse de celui-ci avec l'âge. Dans le domaine de la psychologie, Zajengovski et Gilles Gignac ont tiré leur épingle du jeu en démontrant que flatter quelqu'un sur son intelligence reflète son narcissisme. Côté animaux, la science ne manque pas d'humour. Les lézards arc-en-ciel préfèrent visiblement la pizza 4 fromages, tandis que des vaches peintes en zèbre subissent moins de piqûres d'insectes, conformément à d'autres travaux également salués par un prix du jury. Les chauves-souris, elles aussi, ne sont pas en reste. Après avoir consommé des fruits fermentés, elles peinent à voler correctement, comme si elles étaient en état d'ébriété. Ou plutôt, elles sont en état d'ébriété. Les secteurs de la médecine et de la nutrition fournissent également leur lot d'étonnement. Les bébés allaités réagissent aux saveurs du lait transmis par leur mère, y compris celle de l'ail. Par ailleurs, l'expérience sur les rats nourris avec du téflon montre que la satiété peut être influencée de façon surprenante. Les prix délivrés ont également permis de mettre en évidence que la consommation d'un peu d'alcool semble améliorer la prononciation d'une langue étrangère, tandis que la chimie simple explique le succès des pâtes Cassio NPP. Donc fromage et poivre, c'est une recette italienne.
C'est une blague, c'est pas possible.
Non, c'est pas une blague. La concentration d'amidon et le dosage précis de l'eau sont cruciaux pour parvenir à obtenir la sauce parfaite. Et donc, ce que célèbre cette cérémonie, c'est la curiosité sans hiérarchie, le droit de se demander pourquoi les lézards préfèrent les pizzas 4 fromages, le courage de tester une idée absurde sans craindre le ridicule, l'honnêteté de reconnaître que parfois une simple intuition peut devenir une hypothèse valide. À travers leur excentricité, ces recherches révèlent également une chose essentielle, la science est un miroir, elle reflète nos angoisses, nos fantasmes, notre quotidien, pardon, et même notre humour. Et c'est peut-être là, dans cet espace où l'on rit tout en pensant, que la connaissance devient pleinement humaine. Les Ig Nobel prouvent ainsi que la science n'a pas toujours besoin d'être austère pour être utile. Entre curiosité, humour et rigueur, ces travaux surprenants font réfléchir tout en amusant et rappellent que sous l'étrange peut parfois poindre l'important.
Et je soumets cette idée à Aude, notre coordinatrice de l'émission. Si on peut avoir les Ig Nobel pour une interview d'une demi-heure, pour passer en revue toutes les stupidités de la science, je suis très preneur. Merci à toi Fabien.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
19h35 sur Radio Campus Paris, le Zoom de ce soir, c'est avec toi Hugo, tu vas bien ?
Eh oui, bonjour Fabrice.
J'aime pas ce bonjour, vraiment.
Pourquoi ?
Ben parce que je sais qu'il y a de la malice chez toi, donc je crains le pire.
Mais non, t'inquiète, je ne mentionnerai pas ton âge ce soir.
Voilà, allez !
J'ai rien dit.
Bon, t'as une interview à faire.
Oui, ce soir, on reçoit dans la matinale, dans le Zoom, on reçoit...
Une bonne interview à faire.
Raphaël Barban, le directeur artistique du festival Formula Bulla, pour sa 13e édition qui aura lieu du 26 au 28 septembre à Césure à Sancier. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Donc Raphaël, ma première question, elle est toute simple. C'est quoi Formula Bulla ?
Formula Bulla, c'est une longue histoire. On a combien devant nous ?
On a 10 minutes.
12 minutes. Okay, c'est un festival de bande dessinée et plus y affinité. C'est-à-dire qu'on y trouve essentiellement de la bande dessinée, mais on peut aussi y trouver plein d'autres choses super intéressantes. De la philosophie, de l'écologie, de la politique, de la musique, de la poésie, de la peinture.
Et du coup, tu me disais que ça, c'est une longue histoire, mais l'origine, c'est ça, on est déjà à la 13e édition. C'est quoi l'origine du festival ?
Le festival est né en 2011 à Saint-Ouen. Et puis en 2015, il est venu s'installer à Paris. Puis il a pas mal voyagé. On a été après Saint-Ouen dans le 10e arrondissement. Et puis là, depuis 3 ans, on s'est posé à Césure, à l'ancienne Sorbonne Sancier.
Oui, et j'ai d'ailleurs eu cours l'année dernière. Donc je connais bien. Donc tu disais, et plus si affinité. Donc d'où ça vient cette idée d'associer à la fois bande dessinée et plus ?
Bah, disons que ça s'est fait assez naturellement. C'est le reflet aussi de l'intérêt que les autrices et les auteurs de bande dessinée portent aujourd'hui à d'autres champs, d'autres réflexions, d'autres pratiques artistiques. Et nous, avec Thomas, ici présent, mon collègue à la programmation, on aime bien associer des autrices et des auteurs de bande dessinée à d'autres médiums, d'autres pratiques. Voilà, c'est assez naturel, quoi. Donc cette année, par exemple, on a une autrice qui va venir parler de son bouquin et qui va échanger avec une philosophe.
Voilà. Ok, ok. Je continue sur cette lancée, parce que quand on va voir ton petit édito sur cette 13e édition, on peut lire qu'il y a une programmation engagée et politique autour d'une figure centrale, féministe, anticonformiste, reconnue comme pionnière et malheureusement aujourd'hui disparue, l'américaine Aline Kominsky-Crumb. C'est qui, Alice Kominsky-Crumb ?
Alors, Aline Kominsky-Crumb, c'est une autrice américaine qui a été, au début des années 70, effectivement, une des pionnières de l'aventure de la bande dessinée autobiographique, militante, féministe aux États-Unis. Et dont un livre très important a été enfin publié en France à la fin de l'année 2024 aux éditions de l'association, qui s'appelle Sacré Bunch, un bouquin dans lequel elle retrace toute sa vie, puisque son travail, le sillon qu'elle a creusé toute sa vie, est consacré à sa propre vie. On est vraiment dans l'autobiographie pur jus. Sans filtre, où elle mélange toutes ses angoisses, ses névroses, sa propre sexualité, les violences faites aux femmes, la religion. Enfin voilà, elle est traversée par tous les sujets sociétaux qu'elle a pu connaître aux États-Unis et en France, puisqu'elle a vécu aussi en France. Voilà, donc c'est une autrice centrale, un peu oubliée, qu'on avait envie de remettre au goût du jour, parce qu'à Formulabula, on aime bien aussi associer voilà, des œuvres qui nous semblent essentielles et qui sont parfois, dans l'histoire de la bande dessinée, qui sont parfois un petit peu oubliées et qui pourtant sont primordiales dans la construction du travail d'auteur et d'autrice plus contemporain.
D'accord. Et tu sais pourquoi elle a eu tant de mal à être traduite et publiée en France ?
Alors Aline Kominski-Crumb, elle avait un mari fort célèbre, qui est toujours vivant, qui s'appelle Robert Crumb, qui est un monstre sacré culte de la bande dessinée internationale. Et il est assez facile d'imaginer qu'elle a vécu, en tout cas sa carrière a été un petit peu ombragée, on va dire, par celle de son illustre mari. Pour autant, ils ont beaucoup aussi travaillé ensemble, à quatre mains, voire même à six mains avec leur propre fille. Donc, c'est une famille d'artistes qui s'est mise en scène à travers la bande dessinée, puisque Robert Crumb aussi se met en scène dans son travail de bande dessinée. Et Aline Kominski-Crumb, ben voilà, je pense qu'elle a un peu. Oui, elle a été un peu. La flamboyance de sa carrière a été un peu éteinte par la reconnaissance mondiale de son mari.
D'accord. Donc on peut dire que c'est encore une femme effacée par un homme.
Oui, on peut dire ça.
Pour continuer, quand on regarde un peu la programmation, il y a un objet qui m'a attiré, c'est que je crois que ça parlait de jeux vidéo ou quelque chose comme ça, autour des artistes enquêteuristes, Sabine Tessonner et Gaspard Laurent. C'est quoi des artistes enquêteuristes ?
Alors Sabine Tessonner et Gaspard Laurent sont deux artistes assez singuliers qui sont à la fois auteurs de bande dessinée, commissaires d'exposition, chercheurs. Et c'est deux personnes à qui on a confié une carte blanche cette année. On leur a confié un espace du festival dans qu'ils vont donc investir à travers un projet qui s'appelle Marcher dans le labyrinthe et qui est tout à la fois une exposition... un centre d'atelier collectif autour de la bande dessinée, un lieu de performance. Enfin voilà, ils vont explorer à leur façon la bande dessinée.
Ok. Et donc, il y a, je continue un peu sur cette redite du festival, puisque il y a ces auteurs-là, il y a des débats, tu me disais. Alors, je sais plus ce que j'avais remarqué comme débat, mais j'ai vu qu'il y a aussi des masterclass. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce festival et aussi des machines à bande dessinée. Comment ça marche ?
Oui, alors ça c'est Yann Bernard, c'est un projet super intéressant, éco-responsable, puisque c'est un artiste qui démonte les imprimantes, les machines qu'on a chez nous, qu'on jette parce qu'elles ne marchent plus. Ben, lui, il va récupérer des petites pièces à l'intérieur qui vont encore pouvoir servir, et notamment des moteurs qui vont lui servir à fabriquer des petits robots bricolés avec lesquels on peut dessiner. Et donc, c'est un atelier à la fois de création, puisqu'il invite les gens qui participent à l'atelier à dessiner des fresques collectives avec ces petits robots, avec aussi en sous-texte une dimension écologique, puisque l'idée, c'est de montrer que, en fait, quand c'est cassé, il y a encore des choses à récupérer à l'intérieur pour en faire autre chose. C'est donner une seconde vie à des outils du quotidien qu'on croit totalement foutus, et en fait on peut aller piocher dedans autre chose.
Ok, donc tout le monde peut dessiner avec ces petits robots, c'est ça ?
Ouais, c'est un atelier ouvert et collectif.
D'accord, collectif, oui, puisque c'est des grandes fresques.
Ouais.
Ok. Et cette question de l'écologie est aussi, elle est très politique. Est-ce qu'elle se répercute sur tout le festival ou juste sur certains moments clés ?
Non, depuis longtemps maintenant, on a embrassé ce combat parce que en fait, c'est tout naturel et l'inverse serait assez étonnant d'essayer à notre façon un festival. Bon, c'est de la fabrication, de supports d'exposition, de l'impression. C'est beaucoup de matériaux qui sont utilisés et nous, on essaie autant que faire se peut d'utiliser justement des d'une scénographie qui va être pérenne et qu'on va pouvoir réutiliser les années suivantes. On a une cantine pour les artistes et les membres de l'équipe qui est totalement végétarienne sur la durée du festival. Voilà, on essaie d'apporter un peu on essaie d'être logique avec la ligne éditoriale et politique du festival, quoi.
Oui, parce que tu parlais du lieu et de la cantine Sensier, Césure, c'est pas non plus un lieu anodin. Moi qui ai eu cours du coup l'année dernière, je sais qu'il y a aussi une cantine solidaire, il y a pas mal d'événements.
Pour décrire Césure, juste parce qu'il faut imaginer que c'est un ancien campus universitaire à proximité des Gobelins, grosso modo qui ressemble à un lycée, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans Césure ?
Ah bah, je pense qu'on peut en parler tous les deux.
Oui, à Césure, il y a plus de... C'est un tiers-lieu, ce qu'on appelle un tiers-lieu aujourd'hui. L'espace a été confié à une structure qui s'appelle les Plateaux Urbains et qui accueille plus de 220 structures associatives essentiellement. Qui évoluent dans des champs très différents. Il y a un Emmaüs, il y a énormément de structures différentes. Et oui, donc nous, Césure nous sied parfaitement à la fois comme un lieu d'accueil qui nous convient parfaitement pour construire notre projet, notre festival, pour accueillir notre public. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une pertinence par rapport à leur ligne, la politique qu'ils défendent.
Oui, parce que Formula Bula, c'est donc un festival engagé. Il y a de nombreuses masterclass, je le disais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces masterclass et un peu les têtes qui sont invitées ?
Oui, alors on a une grosse tête d'affiche avec une masterclass très attendue samedi soir avec David B, qui est un auteur phare de la bande dessinée, cofondateur, membre fondateur de la maison d'édition L'Association. Et puis on a, si je devais en citer quelques-unes, on a une très très belle rencontre à mon avis qui va vraiment faire date avec Maïté Grandjouan, qui est une des autrices qu'on expose, et Alt236 qui est un youtubeur bien connu des amateurs des films d'horreur, où tous les deux vont échanger justement sur notamment l'abstract horror, qui est un genre du cinéma d'horreur. On a une masterclass à l'école des Gobelins, puisque tu mentionnais les Gobelins, qui est vachement intéressante aussi, puisqu'on invite un réalisateur culte du cinéma d'animation international. Il est suisse, il s'appelle Georges Schwitzebel. Et ce qui est très intéressant sur ce projet-là, c'est qu'il va dicter une masterclass non seulement aux étudiants des Gobelins, mais on a aussi eu l'autorisation de pouvoir faire rentrer du public du festival dans l'école. Et ça, je trouve que c'est à la fois découvrir le travail d'un artiste comme Georges Schwitzebel et aussi pouvoir mettre les pieds dans une école assez mythique en termes de cinéma d'animation.
Oui, parce que les Gobelins, c'est quand même assez connu. On peut retrouver certains courts-métrages de l'école sur YouTube, par exemple. Moi, je sais que j'aime bien regarder. Et je voulais savoir aussi, parce que on continue...
Et ce sera la dernière question.
Très bien. C'est... J'avais vu que l'entrée était à prix libre. Comment ça se passe ? Comment ça s'est inscrit ? Parce que tu es le directeur artistique, comment cette décision elle s'est inscrite dans ce processus politique du festival ?
Comment vous financez un festival à prix libre ?
Alors, au départ, depuis toujours, Formula Bula est un festival gratuit. Tout est gratuit chez nous. Et puis, on fait partie énormément d'associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. On fait partie cette rigueur, cette austérité budgétaire qui s'annonce, qui est déjà là et qui va aller en s'amplifiant. Et donc, on s'est dit que, à la fois pour essayer de... Alors, c'est pas tant pour compenser des baisses de subventions qu'on a installé cette billetterie solidaire. Donc, le prix libre, c'est une billetterie solidaire. Chacun, chacune peut donner... participer, abonder à la construction du festival en donnant ou pas, c'est donc libre. Mais c'est vraiment plus dans un sens de mutualiser et d'embarquer avec nous une communauté, quoi, pour essayer d'être soutenu, pas tant financièrement, sinon moralement, je dirais.
Le festival Formula Bula, c'est dans le 13e, donc c'est à Césure, Sensier de Banton, c'est le métro. C'est aussi...
Comment ? Métro 7.
Métro 7, exact. C'est aussi médiathèque de l'Heure Joyeuse. D'autres médiathèques, on l'a dit, l'école des Gobelins. Allez y faire un tour, ça commence vendredi 9h. C'est jusqu'à dimanche 17h30. Merci à toi Hugo pour ce zoom et merci à vous, à toi Raphaël Barbon, directeur artistique du festival Formula Bula, d'être passé dans la matinale de 19h. Tout de suite, Bébé Trix avec Malvada.
Oh, hago tarde, no soy cenicienta. Freno con gan, la presión que se sienta. Hoy da pa' toso, mejor si no invento. En la cabeza le pongo el de 30. Estamos picantes. Pato, hoy no se piensa. Bébeme lo que te veo lenta. No se duerme, noche de fiesta. No cojo L, solo sé ganar. Pila de F, una superstar. Si te freno es siempre con par. Chica inusual, no tienes que pagar. Super smooth, quien como Bibi. Entrando caliente, sin mucho ambiente. La nota se siente, noche de ambiente. Y si quiero te frenan de frente. Me odian porque soy muy mala. Todas quieren ser como mí. Tengo la paca, el que saca cheese. Hace frito, lo quiero free. No tengo novio, I got three. Saco pasta, la pongo a pasearse. Nix pa' de tono, hace falta estresarse. Sin dar el canto, tú más de ese martes. Estamos pato sin dar mucho detalle. No cojo L, solo sé ganar. Pila de F, una superstar. Si te freno, es siempre con par. Si cae inusual, no tienes que pagar. Super smooth, quien como Bibi. Entrando caliente, sin mucho ambiente. La nota se siente, noche de ambiente. Y si quiero, te frenan de frente. Me odian porque soy muy mala. Me odian porque soy muy mala. Taco de 20, pa' hacer paquete. Vibra bacana, eso se siente. Mala con bola. Mala con bola.
Sur Radio Campus Paris, Bébé Tricks, Malvada sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 FM et sur le DAB+.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Je me fais piéger avec le nouvel habillage. La dernière chronique, c'est avec le premier Hugo. Et tu nous parles de quoi, Hugo ?
Je parle de l'actualité un petit peu. Oula. Salut la gauche, comment ça va ? Il fait froid, non ? Et oui, chaque année, froid, ouais. Dès que la fête de l'UMA est passée, qu'il y a eu les 2-3 minutes de septembre et qu'il y a eu un nouveau pantin à l'Elysée, la droite nous envoie le mauvais temps et le froid. Brrr. Mais parlons bonne nouvelle, Macron a reconnu l'état de Palestine hier à New York. Ouais, mais c'était juste après le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal qui l'ont reconnu avant même que l'Assemblée Générale de l'ONU ait lieu. Ah, et même là, on est à la bourre. En tout cas, ça montre un truc. Macron avait besoin de le dire devant une foule et de se faire acclamer comme d'habitude. La sobriété, c'est comme pour Gérard Depardieu, c'est très peu pour lui. Notre maladie en France, c'est notre fierté. Il faudrait la ravaler un petit peu des fois quand même. Alors, à la sortie du siège de l'ONU, Macron a été bloqué dans la rue par le cortège de Donald Trump à New York. Tout est bloqué, lui dit un policier. Sur des images filmées par Brut. Et dans ce contexte pour le moins original, le président a appelé son homologue américain pour tenter d'en sortir. Après plusieurs minutes d'attente, la rue est débloquée, mais il a fait une demi-heure à pied avec Trump au téléphone et il a fait genre 45 selfies, dont un mec qui lui a embrassé le front. chaleur, j'ai envie de dire. Mais ça a au moins appris un truc à Emmanuel Macron, c'est le mot consentement. Le roi du foot s'appelle Ousmane Dembélé. Il était le grandissime favori hier, il l'a emporté. Le numéro 10 est élu Ballon d'Or 3 ans après Karim Benzema. Pendant ce temps, à Marseille, son équipe, le PSG, se prenait une grosse branlée. Victoire de l'OM 1-0. Bye bye les gâtés. Et il y a aussi Harry Styles qui a bien sué à grosses gouttes dimanche au marathon de Berlin. Le chanteur british était pas venu pour déconner. Il a tout simplement défoncé une bonne partie de la concurrence en un temps de 2h59 minutes et 13 secondes. Il a mis 3h24 en mars à Tokyo et il avait fait 2241e sur 80 000. Pas mal les Anglais. Il a participé à la course sous une fausse identité. Il est enregistré sous le nom de le pseudonyme de Ted Sarandos, un clin d'œil au patron de Netflix, Ted Sarandos. Ils sont privés de récré. Qui ça ? Depuis la rentrée, plus aucun enfant n'a le droit de toute la cour de récré, de fouler la cour de récré de Maison Lafitte. Pourquoi donc ? Eh bien, 5 voisins ont porté plainte pour nuisance sonore et visuelle. Et c'est 2025, c'est une série. Les enfants empêcheraient certains d'exercer leur activité en télétravail et priveraient d'autres de jouissance paisible de leur retraite, avance leur avocat. Et le tribunal a penché en défaveur de la centaine d'élèves de l'école Montessori qui doit désormais trouver une cour annexe 5 fois plus petite. C'est nice, on vit dans un monde de plus en plus tolérant, on dirait. Ceux qui jetaient des regards noirs aux enfants dans le train sont passés au niveau supérieur. Dernière news, savez-vous qui pourrait avoir le prix Nobel de la paix cette année ? Est-ce que vous l'avez passé ? C'est un monsieur très con, très vieux, avec des cheveux orange.
Donald Trump est en lice.
Et oui, depuis son retour à la Maison-Blanche.
Il le veut, mais c'est pas gagné.
Alors, c'est peut-être, c'est pas loin. Depuis le retour à la Maison-Blanche, il se cache pas, il le veut le Nobel, parce qu'un de ses grands rivaux démocrates, avant lui, l'avait eu. Barack Obama l'avait décroché à la surprise générale peu après son élection. Alors, à la moindre occasion, le milliardaire répète qu'il le mérite, citant son rôle dans la résolution des conflits, même si les guerres de Gaza et de l'Ukraine sont toujours là. À l'appui de sa campagne des très bons copains, Donald Trump fait valoir que plusieurs dirigeants étrangers le soutiennent, comme Netanyahou ou alors l'Azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont proposé et le soutiennent. Donc vraiment, il a des coupes mains qui donnent vraiment envie, lui. Ça fait plaisir. Pas sûr toutefois que cela suffise, parce que il a pris sa fonction le 20 janvier, 11 jours seulement avant la date limite pour le dépôt des candidatures. On verra bien, le monde est très bizarre en ce moment. Profitez bien de l'hiver. Bye bye.
Quelle conclusion, j'adore. Et c'est ce qui fait qu'on marque la fin de la matinale de 19h ce soir. Mais elle revient demain, ne vous inquiétez pas. Même heure, à la technique ce soir, Joey. Au Zoom, Hugo. Aux chroniques, Fabien et Hugo. À l'interview, Hélène avec moi et à la coordination, Odéjane, que je salue très fort. Bienvenue à Radio Campus Paris. Merci à vous tous. Quatrième murmure, l'émission dans quelques minutes. Bonne soirée et bonne semaine sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org. We'll be right back.